Aujourd'hui, direction la Ville Rose, Toulouse, pour rencontrer Jules Charot, que je retrouve dans un café branché rempli d'étudiants au bord de la Garonne. Jules, c'est un wakeboarder professionnel âgé de 22 ans, très attaché au patrimoine culturel de la France et qui est plus que conscient des enjeux environnementaux de sa discipline. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore cette pratique sportive, c'est l'occasion de la découvrir.
Le Red Bulletin.
Bonjour Jules Charot, tu es wakeboarder professionnel, tu as 22 ans et ça fait un peu plus de 10 ans que tu pratiques cette discipline. Merci d'être avec moi aujourd'hui.
Avec plaisir.
En 2021, tu as monté le projet Tour et Détour avec Red Bull, une aventure en wakeboard grâce à laquelle tu nous fais redécouvrir les paysages emblématiques de la France. L'occasion pour toi de t'accrocher à ton câble un peu partout et de surfer sur les cours d'eau au bord des châteaux. Mais d'où t'est venue cette idée ?
L'idée, ouais, c'était de faire un projet qui, avant tout, porte sur la France, le fait de montrer un peu, tous les paysages français, montrer que la France, en fait, il y a tellement de choses, c'est tellement complet comme pays, on peut y faire tellement de choses que... Ouais, le but, c'était vraiment de montrer toute la France, de montrer tous les paysages, le fait qu'on puisse passer de la montagne à la mer en quelques heures. Montrer les châteaux. Et faire un truc vraiment qui parle à tous les Français, et même en dehors, on va dire, vraiment, pour donner envie, on va dire, de venir en France.
Pour vous donner un aperçu, Tour et Détour, c'était ça.
Un mois à sillonner le pays, à découvrir des spots jamais ridés auparavant. C'était l'occasion idéale pour faire de ce pays mon wake park. Maintenant, il est temps de prendre la route et je vous emmène faire un petit tour.
Là, tu mets à quoi là ?
On se demandait justement.
C'est à toi de nous le dire. Hein.
Un de plus.
Ah, mais t'es gonflé de nous caler ça maintenant, toi.
Vous faites trop.
Trois. Aujourd'hui, on est à Romorantin. Spot pas du tout prévu de base, mais je me souvenais de ce rail quand j'allais voir mes grands-parents qui habitent juste à côté. Là. Du coup, on est allé voir le centre culturel qui a gentiment accepté de nous laisser rider. Donc, merci à eux, on va pouvoir s'amuser.
Qu'est-ce que le wakeboard ? Il s'agit d'une activité dérivée du ski nautique qui a fait ses premières apparitions en 1920 sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie. Les skieurs sont tractés par un bateau motorisé à l'aide d'une corde comportant à son extrémité une poignée appelée le palonnier. Il faudra attendre la fin des années 70 pour que le néo-zélandais Alan Barnes invente le premier skurf, une planche hybride ressemblant à la fois à un ski nautique et à un surf, destinée à retrouver des sensations de glisse sur l'eau sans être tributaire des conditions météorologiques. Le wakeboard est un sport en perpétuel mouvement qui ne cesse de mettre au point de nouveaux moyens de traction comme le câble que Jules maîtrise à la perfection.
Quand on arrive dans un village ou dans une ville où on n'a pas forcément l'habitude de voir cette discipline, comment on fait pour obtenir les autorisations ? Comment on fait avec sa bande de potes et son van sans trop perturber déjà l'environnement dans lequel on se trouve et surtout faire comprendre aux habitants qu'on est là pour faire valoir, on va dire, leur patrimoine culturel.
Alors c'est assez compliqué. Ça dépend vraiment des moments, des lieux et de l'ouverture d'esprit des gens, on va dire. Parce que quand on allait rider le château de Chantilly, par exemple, voilà, on a demandé des autorisations à l'avance. Enfin, il y a plein de spots d'ailleurs comme ça, on a demandé des autorisations. En général, ils sont assez ouverts. Après, c'est vrai que quand on leur explique que, par exemple, on va vouloir monter sur une barrière ou quelque chose, tout de suite, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit, on risque de dégrader, on va dire, le milieu urbain ou quoi que ce soit. Mais non, en général, il n'y a pas trop de problèmes. Comme il n'y a pas vraiment de législation sur le fait de faire du wakeboard, ça dépend. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi, on va dire.
On écoute tout de suite ton arrivée à Chantilly.
Alors là, on est au château de Chantilly, à 1h de Paris, on vient d'arriver, il est 6h du matin, on est en train de préparer le kicker, je vais essayer de sauter par-dessus cette passerelle, et le gros challenge, c'est d'essayer de le faire sans la toucher, du coup, on set up tout ça et on y va. Alors là, il essaie d'accrocher la pouille le plus haut possible pour que j'ai la meilleure tension pour pouvoir rider ce gros truc.
plan, c'est que je parte du haut, je prenne le kicker, je me replaque en plein milieu sur le top là. C'est peut-être cette espèce de trompelle, cascade, et que ensuite je me plaque derrière.
Comment c'est pareil le fond là, c'est que les la roche là.
Ah ouais. Alors, je vais quand même aller checker par moi-même derrière.
Ah, je disais, mets-le à gauche là où c'est profond.
Ton périple nous permet de nous plonger à nouveau dans une France qu'on oublie bien trop souvent lorsque l'on vit en ville. Avec toi, on se balade village après village et on apprend aussi à construire des rampes. D'ailleurs, comment le dit-on dans votre jargon ?
Alors nous, on appelle ça un kicker. C'est un peu l'outil de base, on va dire, pour faire du winch. Enfin, du coup, du winch, c'est le wakeboard dans la rue. Parce qu'en fait, voilà, en gros, le but, c'est d'avoir un petit tremplin portable, démontable, qui flotte, pour pouvoir le mettre un peu où on veut, pour histoire de rider les spots qu'on veut. Je sais pas si c'est français ou c'est incompréhensible, mais en gros, là, il y a juste certains spots qu'on veut rider qui sont pas forcément accessibles sans kicker, soit parce que la barrière est trop haute, soit parce que je sais pas, il y a un obstacle devant qu'il faut qu'on franchisse. Donc voilà, c'est juste un outil qui est là, qu'on va pas utiliser tout le temps, mais qui peut être utile dans beaucoup de spots.
J'ai une question pour toi, parce que aujourd'hui tu as 22 ans, tu travailles dans l'espace urbain et dans l'espace rural avec le wakeboard, tout pour le plaisir certes de ta discipline. Néanmoins, est-ce que ça reste important pour toi d'être conscient de l'environnement, surtout quand tu fais ce sport ?
Ah oui, oui. Déjà, c'est pour ça que je ne fais pas du wakeboard bateau, je pense. C'est que, en fait, dans le wakeboard, on a deux disciplines. On a le câble, donc ce qui consiste à être tiré par un câble électrique. Je ne sais pas si tu avais déjà vu le bipoli. Donc voilà, il y a vraiment deux disciplines. Il y a le fait d'être tiré par un bateau, donc le wakeboard bateau, et le wakeboard câble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le câble se démocratise vachement plus parce que ouais, les gens sont un peu fatigués, on va dire, de cramer 50 litres d'essence par session, juste pour le plaisir. Voilà. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il y a une notion d'environnement, et c'est aussi pour ça qu'on utilise aujourd'hui des winches électriques. Les winches, c'est ce qui nous permet en fait justement d'en faire un petit peu partout. C'est la petite boîte avec la bobine de corde. Et voilà, avant c'était fait avec des moteurs de tondeuse, ça faisait un bruit d'enfer, et aujourd'hui voilà, on a réussi à trouver une solution pour le rendre électrique, et du coup...
Le winch, c'est toi qui le construis ou tu fais appel à quelqu'un d'autre ?
Non. Là, il y a deux boîtes qui ont commencé à commercialiser ça. Ça fait vraiment 3-4 ans que ça existe. Mais oui, avant, c'était les moteurs de tondeuse. Et là, c'était homemade.
Ton rapport environnemental, au quotidien, tu le vis comment ?
C'est-à-dire ?
Ta pratique personnelle. Pas forcément en lien avec le sport. Mais je veux dire, toi en tant que personne, si on enlève cette casquette Red Bull, si on enlève l'homme athlète que tu es, comment tu vis avec ton temps ?
On va dire que j'essaie de faire attention au maximum. Après, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, un peu comme tout le monde. Quoi. J'essaie de ne pas faire couler l'eau, je fais le tri de mes déchets.
Je me permets de poser cette question parce que je sais que tu es aussi quelqu'un qui aime voyager. Alors tu voyages grâce au wakeboard, tu as été au Mexique, tu as été aux Philippines, et forcément se pose la question...
Oui, des allers-retours en avion.
Et de ton impact aussi.
Alors déjà, il y a un truc je pense qui peut m'aider là-dessus, c'est que j'ai horreur de l'avion et j'ai vraiment peur de l'avion. Genre vraiment, c'est vraiment compliqué pour moi de prendre l'avion, donc déjà pour tout ce qui est déplacement... En Europe et en France, je privilégie vraiment le train. C'est vraiment si je peux, je prends le train. Après, oui, certes, contrairement à d'autres personnes, on sera peut-être amené à prendre un peu plus l'avion que les autres. Mais oui, j'essaie de faire attention quand même au maximum.
Tout à l'heure, tu me disais que tu avais été à Cergy.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, tu es basé à Toulouse. Donc à Toulouse, on a la Garonne. Mmh. À Cergy, qu'est-ce qu'on a ?
À Cergy, on a l'Oise. Après, c'est pas là-dessus que je m'entraîne. Enfin, c'est pas sur l'Oise que je m'entraîne. Il n'y a pas de téléski. Moi, je m'entraînais à la base de loisirs de Cergy avant. C'est une base de loisirs publique sur laquelle ils avaient installé un téléski. Mais oui, pour tout ce qui est entraînement, de toute façon, ça se passe pas sur des fleuves, c'est sur les téléskis qui se trouvent sur des lacs.
Les entraînements même de wakeboard, ça consiste en quoi ?
Mais ça consiste à se rendre du coup sur un téléski. Je sais pas si j'avais expliqué ce que c'était un téléski. En gros, un téléski, c'est comme ça ressemble un petit peu à un tire-fesse, on va dire. C'est un système de poulies qui est installé un peu tout autour du câble avec un câble en haut. Tout autour du lac avec un câble en haut, pardon. Et en fait, il y a un parcours avec des modules, des obstacles à droite, à gauche. Et le but, en gros, c'est de faire un maximum de figures ou les figures les plus impressionnantes sur chaque obstacle à chaque fois. Et ça consiste juste à tourner en rond, en fait.
C'est un peu comme du snowboard, mais sur un lac ou sur un fleuve.
Exactement. C'est comme un snowpark ou un skatepark, mais voilà, sur un lac. Et c'est vrai qu'on dit toujours que les wakeboarders, ils tournent en rond et que c'est chiant, mais en même temps, c'est-à-dire que les snowboarders, ils descendent et ils remontent, c'est pareil.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui t'anime dans ce sport ?
Plusieurs choses. Je pense déjà le fait de faire un sport qui se passe sur l'eau. Moi j'adore, enfin, je fais du windsurf, je fais du kite, je fais du surf. Enfin, tout ce qui est touche à l'eau, déjà, j'aime bien au niveau sport. Après, il y a l'adrénaline. Je pense que ça nous arrive à tous de se prendre des grosses boîtes, de se faire mal. Et justement, il y a aussi cette satisfaction, on va dire, de replaquer un trick et de ne pas trop arracher. Plein de choses comme ça. Ouais. Enfin, c'est dur à décrire.
C'est dur à décrire, mais c'est normal, parce que quand c'est naturel, ça ne s'explique pas nécessairement. La prochaine grosse compétition pour toi, elle aura lieu quand ?
Elle aura lieu début juin, en Lituanie. C'est un contest Red Bull, qui s'appelle le Red Bull Wake to Well. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans que la compète existe. C'est plutôt international et aujourd'hui elle fait vraiment partie des plus grosses compétitions de l'année, donc ça va être bien chaud de commencer tout de suite par un gros truc comme ça.
Moi j'ai entendu à un moment donné dans une de tes interviews avec la team Red Bull que tu voulais être le meilleur de ta discipline. Aujourd'hui t'en es où sur ce challenge et ce défi personnel ?
On avance. Après, tout dépend des saisons. C'est vrai que l'année dernière j'ai fait une bonne saison, donc bien sûr j'étais pas encore le meilleur. Parce qu'il y a toujours. Je pense qu'il y a toujours meilleur que ça, mais oui, je fais vraiment tout, je travaille à fond, je m'entraîne vraiment tous les jours pour arriver à ce but. Après, c'est vrai que nous on est dans un sport qui fait que c'est assez difficile de dire qui est le meilleur. C'est pas trop comme. On peut pas comparer ça par exemple à un match de tennis où voilà, il y a un gagnant, enfin ça va être je sais pas comment expliquer. En gros, notre sport il est tellement vaste, il y a tellement de façons de le pratiquer, on va dire, entre le style, l'engagement, la créativité, que en fait chacun a un peu sa touche. C'est-à-dire qu'on va on va avoir tel rider qui va être super stylé mais un peu moins technique, on va en avoir un autre qui va être super technique mais beaucoup moins stylé, ce qui fait qu'en fait c'est assez dur de dire, voilà, lui, c'est le meilleur de tous les wakeboarders, en fait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles de notation ?
Pas vraiment. En fait, il y en a, bien sûr. Il y a la propreté, le fait d'être technique. Mais on accorde beaucoup d'importance aussi à la notion de style. Et c'est ça qui est super, super compliqué, on va dire, à juger. Et donc, chaque rider a vraiment son style, sa façon de rider. Ce qui fait que, voilà, il y a un haut du panier. Mais voilà, de dire entre, on va dire, ces 10 meilleurs riders, quel est le meilleur, c'est toujours très, très compliqué à dire.
Ça me permet de faire la transition avec le vêtement qu'on porte au wakeboard. Donc vous avez des gilets sans manches, plus des jackets aussi.
Ouais.
Tu as fait une collaboration notamment avec une marque française qui s'appelle Soruz, sais pas comment on le prononce.
C'est mon sponsor actuel, Soruz, oui.
Et la particularité de cette marque qui existe depuis 1999, c'est que c'est une marque écologique et responsable.
Ouais. C'est sûr que Soruz, je pense que dans la marque, dans toutes les marques de néoprène, c'est tout ce qui va être combinaison pour aller dans l'eau, veste d'impact, de protection, tout ça. Je pense que oui, c'est la marque qui essaye aujourd'hui de faire le plus attention à l'environnement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour produire ces vêtements techniques, c'est beaucoup de pétrole, ça pollue énormément. Et aujourd'hui, ils commencent à trouver des procédés comme, récupérer les coquilles d'huîtres, des choses comme ça, pour réduire l'impact. Donc c'est super cool de bosser avec eux, ils sont sont super attentifs.
Ça fait combien de temps que tu collabores avec eux?
Ça va faire 7 ans maintenant, ou 6 ans. Ouais. Ah, ils m'ont depuis que je suis tout petit. Ouais.
Ils sont venus du coup directement te chercher?
Oui, c'était via Handle Magazine. En fait, on a un magazine dans le wakeboard en France qui a apparu dans ces années-là. Et le patron, en fait, enfin le créateur de ce magazine était justement le team manager de la team Sorouz. Et quand il a commencé à s'intéresser un peu aux riders en France, les jeunes, on va dire, et comment ça se passait, ben voilà, j'ai été pris dedans et petit à petit, j'ai grandi avec eux, quoi.
Il y a un projet de collaboration qui est en cours avec eux sur, je sais pas, un nouvel outfit que tu vas porter ou que tu portes déjà ou...
Oui, ben alors j'ai deux pro modèles chez eux. Pro modèle, en gros, c'est ce qui est. Alors là, j'ai deux vêtements techniques, on va dire, à mon nom. Et oui, tous les ans, c'est moi qui fais les dessins pour eux et c'est moi qui trouve les nouvelles manières de le faire ou de le produire. Donc, en plus, ils me laissent vraiment faire ce que je veux, donc c'est cool.
Tu mets un peu la main à la pâte.
C'est ça. Moi, ça fait plaisir aussi de. Enfin, il y a une satisfaction aussi de porter un truc qu'on a vraiment développé, c'est vraiment cool.
À titre personnel, quels sont tes projets pour l'année à venir? Je sais que tu prépares du coup le championnat en Lituanie.
Ouais.
Après ce championnat, t'as envie de faire quoi? Quels sont tes rêves?
Quels sont mes rêves? Ouf, j'en ai beaucoup. Bah alors déjà, on va avoir une grosse saison qui s'annonce. On va avoir beaucoup, beaucoup de compètes. Donc déjà, je pense que en premier lieu, déjà, c'est d'aller le plus loin possible sur ces compètes. Essayer de faire vraiment mieux que l'année dernière. Si dans l'idéal, je pouvais tout gagner, ça serait super. Ensuite, j'ai vraiment l'envie cette année de me filmer une vidéo part. J'aimerais vraiment, au fur et à mesure de mes voyages de l'année et de mes compétitions, des lieux où je vais, filmer un maximum et garder tous les meilleurs tricks de l'année pour ensuite créer une vidéo un peu corps voilà, de mon année. J'ai aussi un petit book argentique que je voudrais faire. Je me suis mis à l'argentique, j'ai acheté un Mykonos 5. C'est un appareil argentique en fait qui va dans l'eau, c'est un vieil argentique de plongée. Et là, ça fait déjà quelques mois que je commence à shooter un peu à droite à gauche mes potes à l'argentique. Et si j'arrive à refaire un petit yearbook à la fin de l'année avec toutes ces photos, ça pourrait être cool.
Une espèce de revue lifestyle, mais sur tes expériences social, wakeboard.
Lifestyle et beaucoup de wakeboard aussi. Parce que c'est vrai que ça s'est jamais fait de shooter du wakeboard en argentique et c'est assez compliqué, on va dire, contrairement au skate. Je dis pas que le skate est facile à shooter, mais c'est vrai que là, on a la contrainte en plus d'être sur un téléski, d'être dans l'eau, d'avoir qu'un clic. Donc c'est... une satisfaction personnelle, on va dire.
Super. Écoute, Jules, je te remercie d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Je suis Marie-Maxime Dricot. C'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté. Et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.